les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui dans la librairie francophone, le festival de la bande dessinée d'Angoulême, avec deux stars de la BD, le retour d'une écrivaine acide et un jeune auteur qui porte un regard pertinent sur l'accès à la culture. Bonjour Christophe Blain.
Bonjour.
On vous connaît pour la série Gus, mais aussi pour Quai d'Orsay, qui a été adapté au cinéma. Vous avez obtenu deux fois le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. Et vous reprenez aujourd'hui Blueberry avec Johann Sfar. Blueberry, l'une des BD cultes de Moebius. Gus était déjà dans une ambiance western. Quelles étaient les conditions pour reprendre Blueberry, Christophe ?
Les conditions, je ne sais pas. J'ai eu mon éditeur un jour m'a dit « Est-ce que... » Il me l'a dit comme ça, avec une petite voix. Hein. Est-ce que ça te dirait de reprendre Blueberry ? Enfin, de faire un Blueberry ?
Oui.
Au départ, il voulait que j'écrive l'histoire.
Et il vous avait dit non, je ne veux pas écrire l'histoire.
Je dis, je veux le dessiner.
Voilà.
Mais je ne pouvais pas l'écrire tout seul parce que j'avais trop de proximité avec le personnage.
D'accord.
Et j'ai proposé à Johan.
Voilà. On va raconter cette histoire autour de Blueberry. Vous l'aviez déjà repris grâce à Moebius. On va raconter toute cette affaire-là. Merci Christophe Blain d'être dans la librairie francophone aujourd'hui. Nous serons aussi avec l'auteur québécois Michel Rabagliati qui connaît un succès international avec sa série Paul et qui est à l'affiche de ce 47e festival d'Angoulême. Claire Castillon est sur notre plateau pour un roman acide sur la disparition d'un enfant et nous parlerons de la culture en banlieue française mais plus largement dans la société avec Abdelila Laloui, 20 ans, étudiant à Sciences Po, qui raconte son parcours compliqué qui l'a conduit à intégrer l'université qui a formé les grandes figures de la politique française.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, des libraires sont en multiplex, vous le savez. En plateau en France, il y a Thomas Auxerre. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Puteau dans la librairie L'Amandier.
C'est ça.
Tout va bien pour vous ?
Super, tout va bien.
Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez donc le Canada libraire à Montréal dans la librairie du Square. On vous retrouve Josiane en chair et en os dans la version télé de la librairie francophone. Lundi 3 février sur RTS2 et ici RTV. Samedi 8 sur RTBF La 3 et dimanche 9 sur TV5 Monde. En Suisse, il y a Dominique Bressoux qui est aussi libraire à la télé avec nous, toujours élégante d'ailleurs. Bonjour Dominique.
Merci, bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose et on commence avec un coup de gueule grâce à vous Dominique.
Oui, alors moi là je voudrais faire un coup de gueule sur les lecteurs de sensibilité. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, mais c'est une nouveauté qui vient des États-Unis. Les éditeurs passent maintenant les livres au filtre des lecteurs de sensibilité. Le but, c'est de supprimer les mots susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Et moi, là, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais je m'inquiète un peu, parce que ça fait penser au règne de la novlangue de Orwell. Et surtout, on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Alors que pour moi, les livres écrits sur papier, c'est bientôt le dernier espace de liberté pour les auteurs et les lecteurs.
Exactement, vous avez raison de nous alerter sur ce contrôle finalement, hein, entrave à la liberté quelque part. Merci à vous. Déborah Damblon représente la Belgique aujourd'hui. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne avec un gros coup de cœur.
Oui, pour un roman jeunesse, Je suis un ours de Jérôme Eckhout. Et on est dans un monde où les prisonniers perdent leur apparence. Et au début de l'histoire, notre héros, il sort du bagne et donc on doit lui redonner une image et on va lui donner l'image d'un cerf, un animal très prestigieux dans son monde. Et pourtant, il va s'obstiner à dire « je suis un ours qui est un animal méprisé ». Et c'est un roman vraiment très intéressant, captivant, une réflexion intelligente sur qui nous sommes et l'image que nous renvoyons de nous.
Je suis un ours aux éditions Alice. Merci Déborah. Bonjour Claire Castillon.
Bonjour.
On commence cette émission par une histoire personnelle, une anecdote drôle, émouvante, ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, Claire. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter ?
J'ai pensé à quelque chose d'assez récent. En fait, je suis rentrée dans la chambre de ma fille et souvent, quand je vois des bouts de papier qui traînent, je ne peux pas m'empêcher de lire. Et elle a 7 ans, alors j'ai lu et je me suis dit « Waouh, c'est vachement bien, c'est dingue !» Enfin, j'étais très étonnée et je me suis rendu compte en le répétant à une amie que c'était une chanson d'Angèle, en fait.
Ouais, et donc, la chanteuse belge.
Voilà. Et elle avait écrit « Il faudrait tout oublier pour y croire, il faudrait tout oublier, on joue, mais là j'ai trop joué ». Je me disais « Mais c'est bizarre, elle écrit bien ». Voilà, et c'était pas elle.
C'est tout ?
Ouais.
Une histoire de maman, quoi.
Bah voilà.
Ouais.
Un truc.
Vous avez eu peur de la perdre, votre fille, dans un jardin d'enfants, comme votre personnage ?
Tout le temps.
C'est vrai. Ah mais ça vient de là, alors ?
En partie.
C'est une psychose ?
Non, c'est une peur, c'est une obsession. Ouais. Ouais.
Bon, on verra ça ensemble. Merci beaucoup. Claire Castillon est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Abdelila Laloui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez Les baskets et le costume chez Jean-Claude Lattès. Les baskets, ça a été un dilemme pour vous quand vous êtes reçu à Sciences Po. Comment s'habiller ? C'est vraiment une question que vous êtes posée, ça ?
Bien sûr. Et j'ai voulu, dans ce roman, réduire les inégalités sociales et économiques. Ce questionnement qui peut paraître complètement absurde, sans aucun intérêt, pour un petit étudiant qui vient de la banlieue, qui ne s'en rend pas compte, et le transformer et lui donner le titre du livre pour que le livre puisse être incarné par ces deux objets et refléter les inégalités sociales et économiques.
C'est en fil rouge, en fait, hein, les baskets.
C'est ça, c'est le fil rouge.
Ouais, c'est le fil rouge. Vous racontez votre adolescence dans la voiture familiale, l'été, en direction de Marseille, pour prendre le bateau pour l'Algérie, et vous écoutiez beaucoup de musique. La culture, elle a commencé par la musique pour vous.
C'est ça. De la culture donc algérienne, puisque mes parents sont originaires d'Algérie, et de la musique française aussi, puisque mon père est né en France. Mmh. Et on écoutait ces deux styles de musique. Et effectivement, dans le premier chapitre, j'essaye de dépeindre comment une personne issue de l'immigration est imprégnée de deux cultures, celle de ses parents et la sienne, qui est aussi celle de ses parents, bien sûr, pour en faire une seule et même culture, qui est la mienne et qui constitue mon identité.
C'est le métissage, ça.
C'est ça.
Ouais.
Et j'ai essayé de la manière la plus subtile possible, avec l'écoute d'un enfant qui, à 7 ans, se rend en Algérie, d'écrire comment je m'imprégnais de cette culture à travers des musiques dont les paroles m'échappaient totalement puisque je ne maîtrise pas l'arabe, et de dire comment ces musiques, finalement, sont ancrées dans ma culture et sont les bases de ma culture.
Et avec la musique française, francophone aussi, il y a des chansons qui vous accompagnent. Il y en a une en particulier qui vous rassure. Quand vous avez un problème, vous vous isolez et vous écoutez Mike Brandt avec « Laisse-moi t'aimer ».
Laisse-moi t'aimer.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toi, le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh.
Bon, c'est pas la meilleure chanson du répertoire francophone, mais ça vous aide pas mal, notamment quand vous êtes au collège, vous subissez une humiliation parce que vous êtes un peu à l'écart. On vous met à l'écart parce que vous aimez la culture, vous aimez l'école, et puis les gamins, bah, ils vous acceptent pas comme ça. Donc vous mettez un casque et vous écoutez ça, cette musique.
Et elle me renvoie effectivement à ce qu'on faisait dans cette voiture lorsqu'on allait en Algérie et que mon père écoutait cette musique. Et c'est aussi une manière de dire que Mike Brandt, qui peut être apprécié par certains et par d'autres non, qui est de la culture populaire, entre guillemets, comme on aime bien dire.
C'est aussi,
ça fait aussi partie de ma culture et c'est quelque chose qui m'accompagne très personnellement et qui est ancré dans ma propre culture.
Mais c'est en dehors des codes tout ça. C'est-à-dire que dans le collège, on écoute du rap, on porte un jogging, on utilise des expressions de banlieue et on écarte, dites-vous, les Babtous, les Français d'origine française. Vous avez une grosse critique dans ce registre-là, qui peut évidemment faire écho à certains propos de certains politiques. Du coup, comment vous positionnez-vous ?
Une critique, je dirais plutôt, enfin, je suis beaucoup plus nuancé dans le livre et j'ai surtout le regard d'un enfant qui se fait exclure dans un collège en banlieue, mais qui aurait pu se faire exclure dans un collège dans le 7e arrondissement de Paris pour sa différence, parce qu'il ne s'habillait pas avec de la marque, etc. J'ai voulu là décrire la violence, non pas de manière politique. Je suis très loin de ça et je veux pas.
Ça sonne politique pourtant, hein, Abdelila. Vous le savez que ça sonne politique. Ça sonne politique parce que vous dites, vous montrez à un moment que les Français de souche, un certain Nicolas se fait exclure parce qu'il est français. Et ça, évidemment, dans la population française, ça ne peut pas passer.
Mais je ne dis pas qu'il se fait exclure
si.
Pour... Non,
je il tente même de se suicider à cause de ça.
Bien
c'est
sûr,
du harcèlement.
Je nie pas du tout cette violence que j'essaye de dépeindre, mais sans derrière, puisque enfin, justement, je ne voulais pas tomber dans un raisonnement manichéen de dire on a les méchants en banlieue et les gentils ailleurs. Je voulais dire qu'on a cette violence et dans le reste du chapitre, je dis d'où vient cette violence, comment elle se forme, pourquoi est-ce qu'on essaye finalement, et j'utilise ces termes, on essaye de se rassurer dans une société qui, selon nous, et je ne me positionne pas, nous exclut, et dans laquelle on ne se reconnaît pas.
Bon, c'est un prof, en tout cas, et un bibliothécaire, qui va vous donner envie de vous cultiver. Mais pour un jeune des cités, avec des origines maghrébines, vous dites que c'est le parcours du combattant. Vous dites que la République a fait de facto des différences. Même pour entrer à Sciences Po, il y a des concours différents. Et il y a sans cesse ce sentiment de honte, la honte de ne pas être cultivé comme les autres. On va y revenir ensemble, Abdelilah Lalaoui. Tout de suite, il y a des libraires. Le Canada et la Suisse qui ont lu votre livre. On commence par qui ? Vous préférez le Canada ou la Suisse ?
Le Canada.
Le Canada, allons-y. Josiane Letourneau, c'est pour vous.
Alors au départ, j'avoue avoir été un peu désarçonnée par la voix juvénile du livre et j'ai eu l'impression que son style allait me laisser un peu sur ma faim. Mais chapitre après chapitre, la pertinence de votre propos, son authenticité, son actualité, son universalité ont complètement pulvérisé mes doutes. Cette voix et son charme direct dont je doutais durant les premières pages, ben, elle est parfaite. Et je crois que beaucoup de parents, de professeurs, de travailleurs sociaux et d'élus, en fait, surtout ceux de notre gouvernement québécois actuel, devraient lire votre livre.
Bien. Dominique Bressot pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Moi, monsieur Lalaoui, j'ai trouvé tout au long des pages que vous mettiez vraiment le doigt là où ça fait mal. Mais là où on doit vous admirer, c'est non seulement d'avoir su ressortir la tête de l'eau, mais aussi de donner la clé à d'autres, lire et lire encore pour se définir eux-mêmes. Et cette lueur d'espoir, on a vraiment envie de souffler dessus pour en faire le flambeau du futur dans les écoles. Et on ne peut que vous dire un très grand merci.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Abdelilah.
Merci à vous.
Il sourit.
Oui, ça me touche.
Oui, vous pouvez. Alors, vous êtes pris à Sciences Po, votre mère qui vous a toujours incité à lire des livres et dans tous ses états. Dans la famille, on vous appelle Macron. Et alors, le rêve commence, mais c'est pas vraiment un rêve, ça devient un calvaire. L'apparence physique, le degré de culture sont les premiers obstacles. Et quand le premier ministre français arrive dans ce fameux amphithéâtre Émile Boutmy et accueille les étudiants de Sciences Po, vous sentez le décalage?
J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et je dis effectivement dans le livre que j'ai grandi dans une France pessimiste, entre guillemets, où on n'a aucune ambition, où aucun des élèves n'a pour ambition de faire une prépa ou une grande école, école de commerce, etc. Alors que c'est totalement l'inverse dans une école comme Sciences Po, avec certes, et c'est très bien, des procédures comme la procédure, la convention éducation prioritaire qui crée une certaine mixité, mais qui témoigne des inégalités d'accès à l'éducation en France.
Ça accentue l'inégalité quelque part. Ça donne une chance et en même temps ça pointe du doigt l'inégalité.
Ça les met en valeur et surtout à mes yeux, parce que je me rends compte en arrivant après ma terminale qu'il y a énormément de différences entre les élèves qui ont fait un très bon lycée en France et moi. Et je précise toujours, parce que j'ai pas envie de tomber dans la caricature, je viens pas du tout, j'ai pas grandi dans une cité très difficile dans le 94. J'ai grandi à Valenton, qui est une ville plutôt difficile, mais dans un quartier pavillonnaire.
Dans un pavillon, oui.
Dans des établissements très difficiles de ZEP.
Bon, on va lire un extrait de votre livre qui va nous faire comprendre ce que vous avez vécu. C'est Christophe Blin qui a accepté, qui sort le papier de sa poche. Je me disais, tiens, il n'a pas le texte sous les yeux, mais il garde la surprise jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une surprise pour vous. Sur une musique que vous connaissez et que vous aimez aussi, c'est la musique banlieusard de Kerry James. J'envoie la musique et je vous fais signe, Christophe. Ça vous va ?
Ça me va.
Allons-y.
L'amphithéâtre se transforme en salle de spectacle. Les étudiants se mettent à acclamer le Premier ministre qui monte sur scène. Tout le monde écoute avec attention son discours, certains prennent des notes. J'ai encore le sentiment étrange qu'il ne s'adresse pas à moi. Je ne parviens pas à accepter ce prestige social. Et si je n'avais pas eu ce concours, où en serais-je? J'ai grandi dans une France pessimiste, et tout à coup, je me retrouve parachuté de l'autre côté, avec les optimistes. Oui, mais les autres, celles et ceux qui me ressemblent, quel sort leur est accordé? Que font mes camarades de lycée à l'heure actuelle? Autour de moi, personne ne ressemble à la France avec laquelle j'ai grandi. Je n'arrive pas à faire semblant. Mon passé m'écrase.
Christophe Blain, qui lit Abdelilah Laloui, qui s'essuie le front. Magnifique lecture, Christophe.
Non, mais c'était une responsabilité. Je voulais surtout pas abîmer ce texte que je trouvais très beau et j'ai fait un gros effort.
Abdelilah, vous avez les yeux qui pétillent.
Oui.
Mais ça va être dur de continuer pour vous. On arrive à la fin de l'entretien, donc tout va bien. Vous êtes très ému.
C'est un passage que je trouve très important, effectivement, dans le livre. Et qui reflète ce malaise que tous les étudiants qui, certes, bénéficient d'une convention et d'un accompagnement d'une grande école, mais qui sont encore hantés par beaucoup de complexes sociaux.
Bon, vous entrez à l'Assemblée nationale, vous le racontez dans le livre, on va s'arrêter là parce qu'il faut laisser le lecteur découvrir votre texte. À l'Assemblée, vous êtes attaché parlementaire avec un député socialiste et puis vous en sortez parce que ça se passe pas très bien non plus. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué Sciences Po, c'est compliqué la politique. Vous allez faire de la politique, vous pensez ou pas?
Non, je pense pas.
Ah non?
Je me pose pas la question.
Ah oui, pas
non.
Encore?
Non.
Bon, en tout cas, ça vous a permis d'acheter de belles baskets blanches hein, avec votre salaire de collaborateur.
C'est ça, le dernier dans le livre. Effectivement, je dis que le dernier salaire me permet d'acheter ces baskets et qui permet aussi de fermer la boucle du livre.
Ouais. Bon, à noter que vous avez créé l'association Tous Curieux, association que vous aviez créée déjà au lycée et qui a pour but de promouvoir la culture dans les zones défavorisées. On retrouve toutes ces infos sur Internet. Merci beaucoup Abdelilah Laloui.
Merci.
Merci à vous. Les baskets et le costume, récit passionnant et utile, est paru chez Lattès. Vous restez avec nous et vous intervenez quand vous souhaitez. Ça vous va?
D'accord.
Allez, dans un instant, donc Christophe Blain qui reprend Blueberry et Claire Castillon. Pour l'heure, voici une nouveauté musicale française avec le duo Octave Noir et Dominique A.
Je choisis de partir en avance. Je choisis d'être mu d'impatience. Je choisis l'océan qui s'avance. Je choisis.
C'était Octave de Noir avec Dominique A. J'ai choisi.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
la librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Christophe Blain est donc avec nous pour Blueberry, Amertume Apache, paru chez Dargaud. C'est le festival d'Angoulême ce week-end, mais aussi l'année de la BD en France. Moebius tenait beaucoup à ce personnage. Il nous en avait parlé dans cette émission. L'ambiance western tranchait avec ses BD futuristes, mais il y avait un lien quand même. Si on regarde bien, toute l'œuvre de Moebius est influencée par le western, Christophe.
Oui, avec son amour des déserts. Mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert Jean Giraud et Moebius au même âge. Enfin, en même temps, j'avais 12 ans. Je n'ai jamais dissocié. Je l'ai toujours pris comme un tout.
Oui, c'est ça.
Et j'ai toujours été autant fasciné par Moebius que par Jean Giraud.
Alors, vous avez déjà autorisé à reprendre Blueberry pour un numéro spécial de pilote.
C'est-à-dire qu'il m'avait proposé à un moment de faire un essai. Il cherchait des dessinateurs. J'ai jamais su d'ailleurs exactement ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là, mais il a proposé de faire un essai pour le magazine, enfin pour la revue Pilote qui paraissait irrégulièrement, qui était une revue hommage au magazine qui paraissait dans les années 60. Ouais. Et il n'a pas donné suite. Il m'avait dit tu feras 5 pages, on va essayer, tu vas faire 5 pages de Blueberry. Ça devait se passer dans l'Est, à New York, sur un Blueberry qui avait une 50aine d'années. Et puis ça s'est, il n'a pas donné suite. Et c'est comme ça que j'ai créé Gus en me disant qu'il fallait quand même que je fasse un personnage de
western. Ah oui, d'accord.
C'était en 2004, ouais. Oui.
Ah oui, donc il a poussé finalement à la création de Gus.
Oui.
Ouais. Bon, c'est Joanne Sfar qui a écrit le scénario, vous le disiez tout à l'heure dans le générique, mais ça n'a pas été simple, paraît-il. Vous avez été dur avec lui, avec Joanne?
C'est Joanne qui est responsable de l'idée originale de l'histoire et de la trame originale. Mais moi, j'ai écrit une version par-dessus sa version, tout en étant fidèle à ce qu'il avait fait. On était très complémentaires sur cette écriture. Joanne a apporté des choses qui étaient fondamentales. Il avait un peu plus de recul sur Blueberry que moi et sur le western, parce que moi, je suis trop proche.
Oui, vous êtes trop impliqué. Ouais.
Voilà. Bah oui. Je faisais déjà ma série western ça aurait été très difficile de me dédoubler dans le même univers.
Vous êtes à la fois la personne idéale pour reprendre Blueberry et à la fois le pire, parce que vous avez des réflexes en termes de western. Et vous auriez pu, alors c'est très réussi, je rassure tout le monde, c'est magnifique, hein, ce Blueberry, je vous le disais tout à l'heure, non mais c'est vrai, Moebius aurait été ravi, même s'il aurait balancé comme ça une petite vanne, c'est sûr, parce qu'il était comme ça, mais il aurait été ravi. Donc c'est formidablement réussi. Mais il y avait un risque avec vous, Christophe Blain, parce qu'avec Gus, vous auriez très bien pu aller sur un registre qui dénature Blueberry.
Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que je pense que j'avais trop de proximité avec le personnage pour me permettre certaines inventions qui sont dynamisantes. J'étais trop proche, mais justement, c'est ce qui fait la complémentarité de Joanne qui avait plus de recul et moi qui étais très proche à la fois du western et de Blueberry. On a écrit comme ça, consécutivement, plusieurs versions de l'histoire et on a écrit, pas vraiment ensemble, mais l'un après l'autre, en étant en accord.
Bon, dans cette histoire, la paix est en danger dans l'Ouest américain. Sur le territoire Apache, 2 femmes indiennes sont tuées par 3 jeunes blancs qui font partie d'une communauté et d'une famille religieuse intégriste. Il y a le commandant du fort Navajo,
Navajo, qui ne prononce pas ni le J ni le R.
Très bien, comme vous voulez, qui dira à Blueberry, des dingues contre des sauvages, je finis par me demander si vous ne portez pas la poisse. Et c'est vrai que les deux camps sont assez violents.
Oui, il y a des personnages qui sont totalement irrécupérables, parce qu'il en faut quand même. Il faut des bons méchants bien dégueulasses.
Vous aimez ça, les bons méchants dégueulasses, comme vous
dites. Non, justement. C'est-à-dire qu'il en faut toujours un peu dans une histoire, mais un minimum. Mais en fait, à tout moment, chaque personnage a son ambiguïté. À l'exception de Blueberry. Blueberry souffre d'une torture interne, mais il est moralement absolument irréprochable.
Presque.
Il est irréprochable. Son problème majeur est qu'il a des problèmes de conscience parce qu'il fait des erreurs que le lecteur lui pardonne. Ce ne sont pas des erreurs qu'il commet par négligence, incompétence ou égoïsme.
Un peu. Négligence et incompétence, Christophe.
Vraiment?
Mais oui, dans votre album, moi, il m'a énervé, Blueberry. Là.
Ah bon?
Ah oui.
Non, moi, je ne trouve pas qu'il fait ses erreurs par incompétence. Le lecteur le lui pardonne, sauf vous. Qui est extrêmement dur.
Oui, ça c'est.
Vous êtes vraiment vache.
Oui.
Mais Blueberry, le lecteur le lui pardonne évidemment. Puis en plus, il voit qu'il est pris dans un système dans lequel il souffre pour plein de raisons. Mais Blueberry ne se les pardonne pas. C'était ça, c'était un enjeu qui était très important. C'est que Blueberry lui-même se juge très durement.
Enfin, ses collègues vont être tués, on va le dire, vont être tués presque à cause de lui. Ils sont dans une embuscade qu'il n'a pas vu venir. Il somnole. Et du coup, il ne pouvait pas la voir venir, d'accord. Bon, allez, les deux libraires avant lu le nouveau Blueberry, Christophe Blain. Thomas Auxerre en France, allez-y.
Eh ben oui, alors moi c'est une BD que j'ai beaucoup aimée, l'histoire, le scénar, le cadre, bon, vraiment moi je trouve que ça fonctionne, et puis surtout c'est le dessin et son dynamisme qui m'ont plu. Tout est incarné. Alors moi, plutôt que de parler d'hommage, je dirais vraiment que c'est une très belle suite aux Blueberry originaux. Et puis bah moi, j'ai le retour de mes lecteurs là en fin d'année qui a été très très bon aussi.
Parfait. Dominique Bressoux en Suisse, qu'en pensez-vous ?
Oui, alors moi j'ai adoré cet album et pourtant j'aime mieux vous dire que les histoires du Far West, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai l'impression qu'avec cette BD, enfin une vraie place est donnée aux femmes qui cessent de paraître sous les traits de gentilles gourdes attendant le retour des guerriers. Ma seule frustration finalement avec cet album, mais alors énorme, hein, c'est la dernière case. Mais je vous laisse la découvrir.
La dernière case, attendez, je regarde parce que j'ai plus le souvenir. Vous vous rappelez Christophe de la dernière
non,
case ?
Non, mais c'est parce que j'imagine que notre libraire attend la suite. C'est pour
ah oui,
ça,
c'est ça.
Frustré.
Oui, parce que
l'histoire ne se termine pas.
Il est sur son cheval.
Bah, on attend la suite.
Oui, c'est ça.
J'annonce la suite.
Oui,
il y a un cliffhanger.
C'est ça. Bon, c'est vrai que les femmes ne sont pas gourdes. Les femmes sont fortes. Il est question de l'abus sexuel, de la brutalité masculine, de la société patriarcale. Cette histoire pourrait très bien se dérouler à Montréal ou à Paris aujourd'hui. Vous êtes dans l'actualité.
Elle pourrait se dérouler n'importe où, n'importe quand. Je crois qu'on n'a pas réfléchi avant à avoir un discours, parce que c'est pas du tout notre état d'esprit, ni à Joanne, ni à moi. C'est des choses qu'on a exprimées de manière spontanée. C'est-à-dire qu'on montre que ce type de rapport est, quoi qu'il en soit, un échec. Que ça ne mène qu'à un drame où personne ne peut arriver à une satisfaction. Par exemple, à chaque fois que le désir brutal et de masculin, enfin de certains hommes, parce qu'ils sont pas tous comme ça, hein, s'exprime vis-à-vis d'une femme, c'est-à-dire une tentative de viol, ouais. En fait, la tentative de viol est avortée de manière dramatique, et c'est une façon de dire, enfin je m'en rends compte...
Ça finit toujours mal, oui, ça c'est
finit
sûr.
Toujours mal. Ouais. En fait, aucune des parties, particulièrement les hommes qui cherchent à le faire, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de résolution possible à ce type de comportement. C'est quelque chose qui nous est totalement étranger à Joanne et à moi, et c'était une manière de l'exprimer.
En tout cas, vous jouez sur l'ambiguïté des époques, vous donnez les traits de Claudia Cardinale et de Brigitte Bardot à deux de vos personnages féminins. C'est assez étonnant ça. Alors c'est une tradition. Hein. Depuis assez longtemps, on utilise des acteurs dans des bandes dessinées. Il faut savoir que Jean Giraud, Moebius donc, avait choisi comme modèle Jean-Paul Belmondo pour inventer l'allure et la silhouette de Blueberry.
Oui, et ensuite il s'en était éloigné. Ouais. Il disait lui-même, mais maintenant Blueberry, quand on lui posait la question, au début il ressemblait à Belmondo, à qui il ressemble maintenant ? Il disait, bah, il ressemble à Blueberry.
Ouais.
Il est devenu lui-même. Souvent les personnages, quand on crée un personnage au départ, à force de le modeler, à force de l'utiliser, on le synthétise et il devient quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui est le cas de Blueberry qui a une tête vraiment... il est très très particulier. Et au début, pas facile à dessiner. Et après, petit à petit, j'ai réussi à l'apprivoiser, à me sentir à l'aise avec ce personnage qui était le plus important. Et le fait de donner j'abuse un petit peu, où il y a beaucoup de second rôle, de premier ou second rôle dans la bande dessinée, qui sont souvent d'ailleurs des second rôles du cinéma, et du cinéma des années 60 beaucoup, y compris des acteurs français. Et c'est évidemment des acteurs qui m'ont fasciné quand j'étais môme, et qui me permettent de rendre hommage à un certain type de cinéma. C'est un plaisir que je me fais, et je le vis totalement au premier degré et de manière très intense.
Bon, à vous qui nous écoutez de découvrir ces personnages. Je vous en ai donné deux. Claudia Cardinale et Bardot, mais il y en a d'autres. Merci beaucoup Christophe Blain. Blueberry, Amertume Apache est une BD magnifique. Thomas Auxerre confirme. Le dessin est sublime. Vous êtes un petit génie de la BD, Christophe, mais vous le savez déjà. Et Angoulême vous a salué par deux fois. Voilà, félicitations Christophe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bah, je vous en prie. Donc c'est le tome 1. C'est paru chez Dargaud. Le prochain, c'est pour...
C'est pour le plus vite possible.
Voilà, c'est ça.
Je travaille énormément pour qu'il paraisse le plus vite possible.
Merci Christophe. Claire Castillon est dans la librairie francophone pour son grand retour. Fidèle à elle-même, elle publie un roman corrosif. Cette musique du chanteur belge Arnaud, Les yeux de ma mère, que nous entendons en ce moment, vous l'avez choisi comme BO de votre roman. Pourquoi ce titre, Claire ?
Oh, parce que la question est venue comme ça et que je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un cri à Arnaud, enfin dans cette chanson, voilà, c'est le cri du grand, mais je pense que l'enfant crie toujours, il appelle.
Ouais. Bon, Marche Blanche, c'est donc le titre de votre livre paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Un jeune couple a perdu sa petite fille il y a 10 ans, enlevée dans un jardin d'enfants. Le 23 janvier 2008 à 16h20, c'est la détresse.
Oui, c'est l'histoire d'une mère, voilà, qui est au parc avec sa fille et puis qui ferme les yeux pour un cache-cache et qui ne la voit pas réapparaître quand elle les rouvre. Et ça raconte ce moment-là et tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe dans l'attente 10 ans après.
Et tout ce qui se passe chaque année aussi, parce qu'il y a une marche blanche qui a lieu à la même date. Et au fil du temps, la mobilisation s'atténue, on finit par vivre avec le drame. Tout le monde continue sa vie, la seule qui ne pourra pas, évidemment, c'est la mère d'Hortense, cette petite fille. Elle va la voir partout, elle imagine tout et croit même que les voisins d'en face, qui viennent d'emménager avec leur fille, sont les ravisseurs.
Oui, parce qu'ils ont emménagé avec une fille qui a 10 ans de plus, en fait. Et donc, elle voit dans cet ado de 14 ans immédiatement la réplique grandie de l'enfant qu'elle a perdu. Ça nourrit son système, en fait. C'est fait pour la faire tenir. Voilà, on lui apporte une image de plus, une preuve de vie. Donc, elle décide que sans doute, c'est sa fille. Et elle se bat à sa manière. Le père d'Hortense se bat aussi en faisant des affiches qui colle dans la ville, mais on se demande s'il se bat pour faire plaisir à sa femme ou parce qu'il y croit vraiment.
Mais il la tient comme ça aussi.
Oui.
Oui, vous l'écrivez ça d'ailleurs.
Oui, je pense qu'il ne l'a pas tenue en fait quand l'enfant était petit, quand la mère a eu l'impression de s'en occuper seule en fait. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'enfant, il est là. Il est là et il est fort.
Alors en tout cas, le doute est partout, même en famille. Elle frôle la folie, hein, cette maman-là, elle perd complètement pied. Vous montrez très bien comment une mère peut basculer après un enlèvement. Vous l'avez imaginé donc pour vous-même, vous nous le confiez tout à l'heure, pour votre fille. C'est vrai que c'est presque obsessionnel quand on y pense, qu'on se retrouve dans un jardin d'enfants et qu'on perd son enfant des yeux. C'est la panique immédiate et aussi le ridicule qui s'ensuit parce que généralement le gamin réapparaît très vite.
Ouais, mais c'est un ridicule léger, mais c'est vrai que quand on regarde, en effet, on voit des personnes en panique et on ressent très vite comme ça la peur au ventre. Voilà, tout à coup, l'enfant est invisible et quand il réapparaît, moi je trouve qu'il y a plus que le ridicule, il y a l'engagement qui est plus jamais je parlerai à quelqu'un, plus jamais je regarderai mon téléphone, plus jamais, et puis on se laisse prendre.
Ouais. Bon, il y a une surprise, un retournement de situation à la fin du livre dont nous ne parlerons pas, Claire Castillon. Les libraires non plus, j'espère, en tout cas, les trois ont lu votre livre, la Belgique, la France et le Canada. Commençons par le Canada, tiens, Josiane Letourneau.
Eh bien, j'ai eu l'impression d'entrer dans ce livre comme dans une énigme vivante. En fait, tout au long de ma lecture, deux envies complètement opposées sont nées en moi. Terminer ce livre au plus vite ou trouver un moyen de mettre le plus de distance possible entre la voix troublante de cette femme brisée et ma propre imagination, ce qui s'est avéré impossible. C'est un roman absolument déstabilisant, d'une habileté redoutable.
Thomas Auxerre pour la France.
Oui, alors moi en général, ce livre et le sujet de ce livre, c'est exactement le genre de livre que je fuis quand c'est écrit sous forme de récit personnel. Bah oui, c'est vrai que le fait divers expliqué et détaillé, bah quand c'est personnel, hein, bah, c'est pas pour moi.
Elle en a fait plusieurs, hein, Claire, des livres comme ça.
Oui, mais alors là, sous forme de fiction, alors là je me suis vraiment laissé embarquer. Moi j'ai aimé votre style, surtout la psychologie bancale de l'héroïne, son isolement et puis le fait d'être dans sa tête de façon aussi juste et ça surtout jusqu'au dénouement.
Ouais. La Belgique, allez, Déborah Damblon.
Ben, je suis assez d'accord avec mes camarades, Emmanuel, parce que lire votre roman, Madame Castillon, ben, c'était vraiment pour moi comme être sur un sol qui se dérobe. Parce que j'étais moi qui lisais votre livre avec ma sensibilité, mais en même temps, j'étais plongée jusqu'au cou dans les pensées de votre personnage. Et c'était tout à fait passionnant, subtil, mais très très déstabilisant d'avoir son regard sur les autres et puis ses réactions et puis sa façon d'appréhender le drame. Mais en même temps, je trouve que c'est une énorme leçon d'humanité et d'ouverture.
Voilà, les rassurer Claire. Elle a toujours une petite angoisse quand elle vient ici. C'est vrai, vous êtes...
Non, on est très gentil en général.
Avec vous, c'est vrai, oui.
Ouais.
Abdelila Lalouille a eu l'angoisse. Hein. Vous avez eu l'angoisse tout à l'heure avec les libraires.
J'ai eu peur.
Vous connaissiez Claire Castillon, vous l'avez lu ou pas?
Non.
Pas il va falloir vous y mettre.
Hein. Il va falloir, ouais, il va falloir que je lise ça.
Bon, les questions de maternité, Claire, dans ce livre. La maternité qui n'est pas si évidente, pas si facile que ça. La narratrice avouera avoir eu du mal à éduquer sa fille parfois. Elle a été engloutie par la maternité.
Oui, elle raconte, enfin, on voit une femme en effet abîmée, c'est-à-dire que je pense que la violence de la disparition est forte et devrait faire oublier la violence de la vie, mais la vie d'avant était extrêmement violente, c'est-à-dire qu'elle raconte à quel point c'était lourd, ennuyeux, difficile, mais la disparition de la petite, évidemment, la garde-mère, puisqu'elle lui rend pas du tout sa liberté, elle l'enferme davantage. Ouais.
Et c'est vrai que le compagnon, Karl, il ne sait plus quoi faire face aux obsessions de sa femme, très excessives. Et dans ce cas, on est désarmé, car on sait, en tout cas, il sait que s'il baisse la garde, s'il fait son deuil, lui, elle ne pourra pas le supporter.
Oui, je pense que la seule chose qui... Enfin, il devine que la seule chose qui la maintient, c'est la quête, en fait. Et c'est... Donc, il lui dit, elle est sans doute... Enfin, on va la trouver, et puis on la cherche. Et tant qu'on la cherche, elle a pas disparu, en fait. Donc, il tient sa femme. Et je pense qu'en effet, il a la chance de pouvoir remplir ce rôle de père, en fait. Et donc, qu'il n'a pas rempli avant. Donc, lui peut se rattraper.
Mais sauf que ça va pas dans le couple.
Je pense que pour elle, tout est trop tard, en fait.
Ah, mais tout est trop tard, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des situations de fragilité comme ça dans un couple où quitter l'autre, parce qu'il pourrait la quitter, s'apparente à un abandon destructeur, comme si on achevait l'autre. Et porter comme ça le poids de cette éventuelle responsabilité, eh bien, ça séquestre la vie. Et c'est ce qui se passe pour lui.
Oui, et puis je pense que choisir la liberté, la légèreté, le bonheur, c'est pas pour lui non plus. À partir du moment où lui aussi a perdu cet enfant, il s'était moins rendu compte sans doute qu'il était père. Mais je pense que le seul paysage, c'est bouché. Ils sont dans la montagne, il y a du brouillard et ils peuvent absolument pas quitter ce climat-là, en fait. Je pense que il y a pas d'échappatoire.
Il n'y a pas de redémarrage possible. Et votre personnage le dit à un moment, elle ne veut même pas avoir un autre enfant. Je m'arrête là parce que sinon on va tout dévoiler. La fin est horrible. Merci beaucoup Claire Castillon.
Merci.
Merci à vous. Marche Blanche est paru chez Gallimard. Christophe Blain, vous allez lire ce livre, je le sens à votre regard.
Ah, je suis terrifié. Je suis en état de complètement traumatique. Là.
Bon, merci à vous. À suivre le grand auteur de BD québécois Michel Rabagliati qui est à l'affiche du 47e Festival d'Angoulême qui se tient tout le week-end en France. On écoute la chanteuse Indila dans la librairie.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ?
C'était Indila avec Dernière Danse, titre de 2013. Indila qui prépare la sortie d'un nouvel album.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Michel Rabagliati.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la star de la BD au Québec. Votre série Paul connaît un énorme succès, adaptation au cinéma, exposition. Le Canada célèbre votre œuvre régulièrement. Vous avez exploré l'histoire québécoise, votre histoire aussi dans la série Paul. Paul à la maison, c'est le nouveau volet. Il a bien grandi depuis le premier album. Il a 51 ans.
Ouais.
Et il est un peu seul.
On est 15 ans après Paul à Québec. Hein. Sans s'en rendre compte, après Paul à Québec, il y a eu deux albums tampons là, qui vont voir du côté de l'enfance, mais c'était pas pour rien. C'était que ça allait pas bien avec ma conjointe et puis j'ai décidé de laisser tomber le volet familial, donc mettre Lucie de côté et puis de pas en parler. Mais il fallait quand même que je continue un peu à travailler. Je suis allé du côté de l'enfance pour les deux tombes qui ont suivi Paul à Québec. Maintenant, on se retrouve 15 ans après Paul à Québec.
Bon, on retrouve Paul à Montréal au mois d'août, en tongs et pantalons retroussés aux genoux.
En tongs, oui.
Et il va voir sa mère dans une résidence pour seniors. Il y a une atmosphère de faim à l'image du jardin de sa maison qui dépérit.
Oui. L'arbre dépérit dans la cour. Il y a une piscine qui est pas capable d'éclaircir. Il essaie un paquet de produits chimiques. Finalement, il en vient pas à bout. Il se baigne pas pendant l'été à cause que la piscine.
C'est la jungle, quoi.
Tout ça reste opaque. Hein. C'est une métaphore de son esprit, là.
C'est un de ces moments de la vie où l'on perd un peu pied.
Oui.
Quand nos parents sont sur le départ.
Je trouvais que c'est une époque intéressante à explorer. La cinquantaine, il y a toujours les deuils qui viennent avec ça. Hein. Les enfants qui quittent la maison. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos parents. Et puis, souvent dans notre couple, ça peut chanceler. C'est ce qui se passe ici. Le couple qui avait duré quand même 30 ans s'essouffle. C'est pas expliqué, ça m'intéressait pas de l'expliquer non plus. C'était un peu le défi de ce livre-là. C'est de
c'était
parler.
Trop dur pour vous?
Oui, puis je vais pas parler de séparation, mais enfin, je parle de solitude par contre. Pas les seuls, on sait un peu pourquoi, mais on ne connaît pas les tenants et aboutissants de cette rupture-là. Ça ne m'intéressait pas d'aller là.
Quels sont les tenants et les aboutissants de cette rupture-là, Michel Rabagliati?
Oh, c'est tellement banal, de toute façon. C'est un couple qui s'essouffle, c'est un pneu qui se dégonfle à plusieurs endroits. Ça ressemble un peu à ça.
Ouais. Bon, il conserve son humour quand même, avec son voisin énervant, Tonio l'agriculteur, qui fait la même chose chaque année depuis 50 ans. Tout est très organisé chez Tonio, alors que chez Paul, tout meurt, un pommier d'ailleurs en particulier, et un arbre qui meurt dans un jardin, c'est pas bon signe, Michel.
Non, c'est pas bon signe. Il fallait aussi ponctuer ce livre-là de, en anglais, il appelle ça du comic relief, mais relâchement comique, c'est pas mal non plus.
Oui, c'est mieux même. C'est carrément mieux.
De petits... En fait, on le voit chez le dentiste, on le voit avec des problèmes de sommeil, on le voit chez sa mère, on le voit au salon du livre, on le voit auteur, on le voit en train de faire des conférences dans des grandes écoles où ça va mal, ça se passe pas très bien. En fait, rien ne se passe très très bien, même quand c'est comique. Mais on est un peu dans un esprit Woody Allen-esque ici. Là. C'est de l'autodérision.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il rit beaucoup de lui-même.
Les troubles du sommeil, effectivement, il va essayer un appareil un peu particulier. Il va aussi essayer un appareil mandibulaire.
Oui, ça vous avance la mâchoire pour relâcher le palais mou en dormant. C'est pas très efficace.
Ça vous empêche de ronfler et surtout d'avoir des apnées du sommeil.
Exactement, oui.
Vous l'avez vécu, ça?
Oui, je l'ai vécu. C'est fabriqué en France, d'ailleurs. Ah, mais...
On remercie les Français. C'est immonde, cet appareil-là. Ça a l'air immonde. Il y a une planche sur l'implant dentaire aussi.
Ouais.
On se croirait au Moyen-Âge, Michel Rabagliati, avec des techniques rustiques et des outils que l'on utilise pour monter des meubles marque célèbre suédoise ou faire du bricolage. Vraiment?
En fait, je suis allé chez le dentiste, mais j'ai utilisé les outils du garagiste, en fait, la perceuse Milwaukee, puis le ratchet snap-on. C'est des outils vraiment américains, là.
On vous a fait un implant comme ça, vraiment, avec des outils comme ça?
Non, c'est une blague,
c'est une blague.
C'est comme, je décris assez bien ce qui se passe quand on se fait installer un implant, mais c'est des outils que j'ai travestis ici pour faire le rigolo, là. C'est du relâchement comique, encore une fois.
Bon, il va voir un psy, du coup, parce que ça n'a pas terrible. Ouais. On va voir un psy quand vraiment on n'a pas de solution, donc c'est ce qu'il va faire.
Ouais.
Le psy va lui conseiller de s'occuper de son corps. Il va faire du sport, sauf que manque de bol, quand il fait du footing, il tombe sur une septuagénaire bien plus en forme que lui.
Oui, oui, qui lui dit qu'elle a l'air vieux. Puis
elle vous paraissez plus, elle lui dit.
Oui, paraissez beaucoup plus.
Elle lui demande s'il est à la retraite. Alors il dit, mais je n'ai que 51 ans. Elle fait, tiens, vous faites beaucoup plus. Paul va signer ses livres donc au Salon du Livre de Montréal. Vous le disiez, Michel, c'est un peu bizarre ce salon. Vous le comparez à une cabane à sucre.
Oui. La cabane à sucre, c'est un événement qui est au mois d'avril au Québec.
Voilà.
C'est tout le monde se rassemble pour aller dans les cabanes à sucre. Donc, ce sont sont des cabanes qui jouxtent des érablières, mm-hmm. où on récolte l'eau d'érable, on fait du sirop d'érable, on fait de la tire d'érable.
On mange beaucoup.
On mange beaucoup trop.
Très chargé.
Des gens, oui, très lourd. Des fèves au lard, des omelettes soufflées.
Les oreilles de Christ.
Oreilles de Christ, oui, jambon.
Le pire, sans doute.
Les oreilles de Christ, ça, c'est du gras frit.
Bon, avec du sirop d'érable.
Oh, c'est la nourriture de viking, le pense. La cabane à sucre, on a toujours hâte d'y aller, mais on a tellement hâte d'en ressortir aussi parce qu'on a mal au cœur assez vite. Je compare le Salon du Livre à ça, c'est une espèce de tradition immuable. On passe quelques heures là, puis là, on a chaud, puis là, l'air est saturé, puis on a hâte d'en ressortir. Je compare ça à la cabane à sucre.
Bon, salut quand même le public du Salon du Livre de Montréal qui vient régulièrement nous voir.
Oui, oui.
Parce qu'on fait une émission chaque année et vous signez aussi. Donc, ils viennent en nombre et ils sont adorables.
J'en
c'est un public fantastique.
C'est formidable.
Vous en parlez mal du public dans cette BD, Michel, c'est pas bien.
Oui.
Bon, allez, on va partir en Belgique, vous êtes d'accord, avec l'un de nos libraires qui a lu votre bande dessinée. Et c'est Déborah Damblon qui est avec nous depuis Bruxelles.
Mais Emmanuel, un nouveau Paul qui sort, c'est que du bonheur. Hein. Ça fait plaisir, je trouve, comme de tomber sur un vieil ami qu'on voit pas assez souvent et qu'on adore. C'est bon, c'est doux, c'est nostalgique, c'est intense. C'est juste assez québécois pour être dépaysant, juste assez quotidien pour être universel. C'est trop vite fini, toujours. Mais en même temps, on en garde longtemps, longtemps le souvenir, chevillé au cœur. Et puis surtout l'envie de le retrouver très, très vite.
C'est vrai, Michel a tout à fait raison. Je m'associe à ce commentaire. Et pourtant, ça fait plus de 200 pages. Et on a hâte de retrouver le prochain épisode. Ouais. Il y a un petit chien, Michel Rabagliati, qui s'appelle Biscuit.
Ouais.
Et qui s'agite beaucoup la nuit. Vous avez une grande théorie sur leur mémoire de leurs ancêtres.
Oui, apparemment. En fait, c'est un vétérinaire qui m'a raconté ça. C'est que notre chienne, notre petit caniche, tous les soirs, tu sais, ça tourne en rond, ça tourne, comme je dis, à focaille, pas à tournaille, là. Jusqu'à temps de trouver sa place, ça lui prenait des fois 15 minutes. Un vétérinaire m'a dit, c'est une espèce de tradition ancestrale, sans rapport aux loups. Les loups, avant de faire leur couche le soir, rabattaient les roseaux pour se faire une couche.
Oui.
Là, c'est ce qui m'étonne, c'est que c'est un caniche en 2000, je sais pas quoi, qui a été complètement transformé génétiquement, continue de faire les mêmes trucs. C'est assez étonnant, quand même.
Bon, si votre chien s'agite avant de se coucher, c'est qu'il pense à ses ancêtres, les loups. Bien
oui,
sûr, Michel.
Oui,
vous allez regarder votre petit chien différemment. Paul est très occupé, il intervient dans des écoles de banlieue. Il dit, j'accepte tout, c'est mon problème. Et ça se passe pas très bien dans les écoles de banlieue. Il veut initier la jeunesse à la bande dessinée, à la culture, mais personne ne le connaît, il est mal accueilli, les profs n'assistent même pas à sa conférence. Et à la fin, on lui dit, tout s'est bien passé, vous n'êtes même pas blessé.
Mais ce qui est fou, hein, c'est que je suis allé dans cette polyvalente-là, dans une banlieue éloignée de Montréal, et puis il y avait eu un mime la semaine d'avant qui avait fait une présentation, un spectacle de mime, et puis les élèves s'étaient impatientés, puis lui avait lancé des pièces de monnaie très fort, puis il en avait reçu une dans l'œil, il avait fallu qu'il appelle le médecin, l'ambulance, tout ça. L'appariteur m'a raconté ça juste avant ma conférence. Il me dit, la semaine passée, il y a un mime qui est venu, ça s'est pas très bien passé pour lui, mais cette semaine, ça va bien aller.
Il a perdu un œil.
Ouais, c'est ça. Il avait perdu un œil. Il a perdu un œil. Puis justement, c'était une de ces conférences qui était très mal préparée. Les élèves confondaient dessin animé et bande dessinée. Ils pensaient que j'étais pour leur passer un film. Les professeurs ont profité de la conférence vraiment pour aller en pause, puis ils m'ont laissé un auditorium plein d'élèves, pas tellement attentifs. À un moment donné, il y a un élève qui est monté sur la scène, qui s'est mis à danser. Tout ça, j'avais aucun espèce de contrôle. C'était vraiment horrible cette expérience.
Et la cloche a sonné.
Oui, la cloche a sonné. Oui, j'étais sauvé.
J'étais sauvé.
Mais quelle expérience.
Bon, la fin du livre est un peu triste puisque la maman de Paul décède, votre maman, Michel Arbagliati, au moment où il rentre chez lui pour se changer et se doucher, alors qu'il était auprès d'elle juste une heure avant.
Oui, c'est vrai.
Il culpabilise beaucoup, mais une infirmière lui explique que ça arrive souvent, ça.
Oui, l'infirmière m'avait expliqué ça, m'avait dit que les gens souvent aiment avoir de la compagnie, mais au moment de partir, entre guillemets, il peut se passer que ces personnes-là attendent comme d'être seules. Moi, je peux comprendre ça. J'étais tout le temps avec elle. À un moment donné, je me disais, bon, ça a l'air correct, la respiration est régulière, elle va probablement pas mourir, son teint était bon. Je disais, ça va. Je vais aller chez nous me doucher rapidement, puis là, dring, le téléphone a sonné à la maison. Ça a même pas pris 45 minutes. C'est vraiment quelque chose de très troublant, je trouve.
Ouais.
Voilà.
Bon, vous êtes très ému et vous nous... Non, mais c'est vrai, on est très ému d'ailleurs en lisant cette bande dessinée à chaque fois. Paul, à chaque fois, moi, je l'ai lu avec les larmes aux yeux souvent.
Merci.
C'est une BD magnifique. Merci, Michel Rabagliati.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci. Je vous souhaite un très bon week-end à Angoulême au Festival de la bande dessinée qui se déroule tout le week-end. Paul à la maison est paru aux éditions La Pastèque. Où que vous soyez dans le monde, lisez Paul. C'est une BD extraordinaire. Et si vous n'aimez pas, Michel Rabagliati vous rembourse.
Exactement.
Voilà. Michel, on vous retrouve retrouve dans la version télé de la librairie francophone en février et vous verrez de nombreux dessins et des planches entières de ce livre à l'écran. Super. Ce sera le 3 sur RTS2 en Suisse et sur ICI RTV au Canada, le 8 sur RTBF la 3 en Belgique et le 9 sur TV5 Monde. À très bientôt donc Michel.
C'est l'occasion de voir mes magnifiques sourcils en même temps.
Exactement, on va tout voir.
À bientôt, merci.
Au revoir.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrad.
Allez, les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Deuxième partie, Josiane Letourneau au Canada, un coup de cœur dans le rayon des romans.
Oui, pour le roman de Lucille Rigbush qui s'intitule « Le sang des pierres au Cartanier ». Alors, « Le sang des pierres », c'est la longue lettre que Jeanne adresse à l'homme qui l'a quitté. Et le récit qu'elle lui fait et nous fait revisite une période extrêmement difficile de sa vie où, aux prises avec un fibrome utérin, elle sera victime d'hémorragies aussi violentes qu'imprévisibles. Alors, j'ai senti rien de moins que la présence d'Annie Ernaux dans la plume de Lucille. Cédric Buch, dans cette façon posée, honnête jusqu'à l'audace, courageuse de nommer la douleur, debout, du moins au fil des mots dans la déferlante. C'est un grand premier roman autofictionnel que vous devez lire.
Et ça a l'air gai en plus. Le sang des pierres aux éditions Le Cartanier. Merci Josiane. Thomas Auxerre, un coup de gueule en France.
Oui, écoutez Emmanuel, un coup de gueule contre les éditeurs et parfois les illustrations qui ornent nos belles couvertures de romans qui arrivent. Ouais. Alors on avait une petite période avec des petits chats. Il y avait plein de petits chats sur les couvertures. Ouais. Là maintenant c'est souvent les personnages de dos. Alors de préférence vous prenez une femme. On voit pas trop qui c'est. Hein. Elle est de dos, elle regarde de préférence la mère aussi. Et bah voilà, je vous ai fait une petite compile sur une page A4.
Magnifique.
C'est ce qui est sorti là. On va dire que les 6 derniers mois, alors nous ça nous fait rire quand on les commande, hein, mais c'est vrai que quand on les met sur une table en présentation, quand on les met vraiment les uns à côté des autres, bah c'est un peu troublant quoi, et on se dit bon bah il y a peut-être quelque chose à faire avec des illustrateurs, avec des gens peut-être qui ont d'autres idées, donc ouais. Voilà, un coup de gueule.
Bon regardez Claire Castillon, il est magnifique.
Super couverture.
Le livre, ouais, super couverture, en plus c'est dans la blanche, ils ont mis un rabat avec une chaîne et avec un glaçon au milieu qui fait le maillon de la chaîne, c'est génial. Vous l'avez choisi Claire ?
Je l'ai choisie, oui, parce que je la trouve magnifique. Elle est d'une force.
Non, mais c'est vrai, oui.
Bah, elle m'a fait chavirer, en fait.
Bon,
elle
ça est... va mieux, vous, sinon, Claire. Oui.
Ça va très bien
en ce moment. Bon, merci, Claire. Merci, Thomas. Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec l'artiste français d'origine malgache, Tzou The Kid.
Y'en a qui m'aiment pour mes prouesses. Y'en a qui m'aiment pour mes chansons. Si tu négliges l'amour pour ta mère en dépit d'un inconnu, remets-toi en question. Je fais souvent les choses sur un coup de tête. Parfois le silence faut l'écouter. Mes enveloppes m'ont dégoûté, mon miroir ne ment jamais, il a toujours raison. Les combats, les victoires, les leçons, je les compte plus. Le karma, les coups bas, être bresson, une habitude intensément faut vivre. C'est trop facile de le dire, derrière quelques sourires je me cache. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant faux, j'ai mal, je fais semblant faux, j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant faux, j'ai mal, je fais semblant faux, j'ai mal. Moi je sais que je suis un bâtard, mais les gens sont bavards. Critique la monnaie, tout en enviant le Qatar. Hey la monnaie, la monnaie, la monnaie. Mais quand tu seras mort, elle sera plus là pour t'aider. Tu fais le bilan, je suis mort il y a longtemps. C'est fatigant de se voir dans 10 ans. Je fais même pas y penser, même pas y songer. Pourquoi espérer en des choses qui vont changer? Hey, les combats, les victoires, les leçons, je les compte plus. Le karma, les coups bas, être brosson, une habitude intensément faut vivre. C'est trop facile de le dire, derrière quelques sourires je me cache. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant faux, j'ai mal, je fais semblant faux, j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer, j'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant faux, j'ai mal. J'ai fait semblant faux, j'ai mal. Je me sens ivre sans même avoir bu une goutte de vodka. Le temps défile et lentement je sens mon âme qui s'en va. Je suis en vie, pourquoi me contenter de ce que je n'ai pas? Oh, laisse le temps parler, oh, laisse le temps parler. J'ai un peu peur de sombrer.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Tiffany Battistel. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France. Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikkels avec Valérie Deput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, le grand scientifique Yves Coppens, mais aussi l'artiste Bartabas sans ses chevaux, ou presque. Et des surprises, bien sûr. Bonne semaine, bon week-end.